Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Anne Muratori Philippe.
Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un événement qui s'est passé le 28 août 1706, il y a 300 ans. C'est un événement qui figure dans les célébrations nationales. C'est l'inauguration de l'église royale des Invalides par Louis XIV. Depuis la pose de la première pierre de l'hôtel royal des Invalides, le 30 novembre 1671, Louis XIV aura attendu 35 ans pour assister dans l'église royale à la première messe suivie du Te Deum et d'un motet de Lalande, chanté par quatre chœurs de musique placés dans les quatre tribunes nichées au creux des avant-corps des colonnes du dôme. C'était donc le 28 août 1706. C'était un événement. Ce matin-là, la foule aux abords de l'hôtel était immense. Les badauds s'agglutinent derrière le rempart formé par 600 invalides rangés en formation de bataille. La haie se déploie jusque dans l'église, car elle est relayée par les 100 Suisses de la garde royale, tandis que fifres et tambours battent au champ. Devant l'entrée de l'église, l'architecte Jules Ardoin Mansart, le petit neveu du grand Mansart, se prépare à recevoir Louis XIV qui descend de carrosse, accompagné de Monseigneur le Grand Dauphin et de Madame. L'architecte se prosterne devant le roi et lui remet, sur un coussin de satin rouge, la clé d'or de l'édifice. Et il en profite pour lui dire ces mots. « Heureux si ce travail que vous avez confié à mes soins depuis 30 années peut répondre à la haute idée que votre majesté m'en a donnée et à ses sages conseils. Ce superbe monument de votre religion marquera à la postérité la plus reculée la grandeur de votre règne. » Louis XIV rend alors la clé d'or à son surintendant des bâtiments. D'une telle manière, précise le Mercure galant, qui lui fit connaître, ainsi qu'à toute la cour qui était attentive à tout ce qui se passait, combien Sa Majesté était contente de lui et de ses ouvrages. Au moment de pénétrer sous le dôme, c'est au tour de l'archevêque d'offrir l'eau bénite à Louis XIV. Il s'agit du cardinal de Noailles qui est entouré de toute sa suite et notamment du clergé des Invalides au grand complet. Dans cette église qui resplendit de tous ses ors, la mise en scène impressionne le roi. Il découvre la coupole peinte par La Fosse, enfin achevée après bien des atermoiements et tant de projets avortés. La décoration définitive s'articule autour d'un savant dosage de peinture et de sculpture. Au peintre les parties célestes et les envolées lyriques inspirées de la mythologie chrétienne. Au sculpteur, le niveau terrestre de l'édifice. Jules Ardoin Mansart avait même imaginé d'entourer la façade de l'église du Dôme d'une colonnade semi-circulaire comme à Saint-Pierre de Rome. Mais faute d'argent, et puis aussi peut-être parce que Louvois n'appréciait pas du tout ce projet, il a été abandonné. La décoration du Dôme a d'ailleurs donné lieu à des querelles d'artistes. Louvois, qui régnait sur les Invalides, comme je viens de le dire, avait préféré Mignard à La Fosse. La Fosse était un jeune artiste ami de Jules Ardoin Mansart. Mignard était un personnage très âgé qui avait une notoriété européenne et Louvois aurait préféré que ce soit lui qui fasse la coupole. Mignard a dû s'incliner car son grand âge ne lui permettait pas de monter sur les échafaudages et c'est le jeune La Fosse qui en a profité. Quant aux sculpteurs, ils ont été placés sous la férule de Girardon. Chargé de donner une cohérence à l'ensemble sculptural, Girardon a exercé ses talents quelques mois, mais pas très longtemps, car il ne s'est pas entendu avec Jules Ardoin Mansart, dont le caractère était assez difficile. Il sera donc renvoyé, et ce seront les deux sculpteurs lyonnais, Coysevox et Nicolas Coustou, qui s'occuperont de toute la partie sculpturale de l'hôtel. Entre la réalisation de la coupole, plusieurs années ont passé et les caisses de l'État se sont vidées. Et surtout, Louvois n'est plus là pour imposer sa volonté. Louvois avait la charge de la construction de cet hôtel et il voulait y faire respecter les traditions militaires. Louvois disparu, les peintres ont pu donner libre cours à leur inspiration, bien sûr, et la fosse a donc abandonné le schéma initial qui devait être une exaltation des conquêtes armées de la France. Il lui a substitué une composition plus simple. Alors que les anges occupent le pourtour de la coupole, seul émerge le Christ et Saint Louis qui lui présentent la couronne, l'épée et le blason, ses attributs royaux. C'est pour cela d'ailleurs que Saint Louis des Invalides s'appelle ainsi. C'est cette glorification de la monarchie qui a séduit Louis XIV. Il admire longuement l'œuvre, sourit et finit par glisser à l'oreille de Mansart le plus franc des satisfaits. Il lui dit ceci, en parlant de la fosse, « Il faut lui faire peindre la chapelle de Versailles. » Puis le roi se dirige vers son prie-dieu face au maître-autel. C'est alors qu'il aperçoit Madame Mansart perdue dans l'assistance. Il aurait pu l'ignorer, mais non. La joie du moment l'incite à un second hommage. « Madame, vous voyant ici, je ne puis m'empêcher de vous faire compliment sur la part que vous devez prendre à la gloire que reçoit aujourd'hui monsieur votre mari. » Dans tout Paris, l'inauguration du dôme a fait grand bruit. Le lendemain, Madame de Maintenon écrit à la princesse des Ursins.
Le roi alla hier aux Invalides sans autre dessein que de faire plaisir à M. Mansart qui a fini cet ouvrage. Cependant, ce fut un beau spectacle. Le roi, suivi de la famille royale et de toute la cour, entrant dans le plus beau lieu du monde, au milieu de tous les soldats, une musique mêlée de trompettes et de cymbales, M. le cardinal de Noailles disant la messe. Je n'ai pas la peine de croire que cela était très beau, car vous croyez bien, madame, que je n'y étais pas.
Il est vrai qu'il faut rappeler que madame de Maintenon n'était absolument pas passionnée par les Invalides et n'avait jamais voulu d'ailleurs s'y rendre, bien que Louis XIV ait fait plusieurs visites à l'hôtel. Mais ce qu'elle ignore aussi, la seconde épouse du roi, c'est que ce sera la dernière visite de Louis XIV à l'institution, cette institution qu'il a tant désirée. Car en fait, c'est lui le fondateur, c'est lui qui est très attaché aux Invalides, car il a voulu réaliser un projet qui tenait à cœur à ses ancêtres, notamment Henri IV et Louis XIII, qui n'avaient jamais pu le mettre sur pied. Et Louis XIV, au début de son règne, s'était rendu compte que tous ces militaires invalides, une fois qu'ils étaient rentrés de la guerre, traînaient leur invalidité dans les rues de Paris, et notamment on les retrouvait près du Pont-Neuf, où ils exerçaient tout un tas de métiers des rues, même étaient parfois mendiants et abusaient un peu de la présence des gens qui circulaient. On disait beaucoup de mal sur les invalides, donc Louis XIV a décidé de trouver une solution et d'éviter que ces invalides rôdent dans les rues de Paris. Et finalement, en 1670, donc Louis XIV a décidé de faire construire au bout du faubourg Saint-Germain un hôtel royal d'une grandeur et espace capable d'y recevoir et loger tous les officiers et soldats, tant estropiés que vieux et caducs, et d'y assurer un fonds suffisant pour leur subsistance et leur entretien. Il a donc chargé Louvois, le ministre de la guerre, d'exproprier les terrains et de mettre sur pied, de faire construire ce bâtiment. Il fallait qu'il réponde à quatre fonctions. Il fallait que ce soit un hôpital, un hospice, une caserne et un monastère. Enfin, une église-monastère. Et il fallait qu'il ait deux églises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, nous parlons de l'église royale, mais dans le projet qui est largement inspiré du plan de l'Escorial aux environs de Madrid, Louvois avait la charge de faire construire deux églises. Et Libéral Bruant, l'architecte du roi qui avait emporté le marché, a très rapidement, à partir de 1671, construit les trois premiers bâtiments qui permettaient d'accueillir les Invalides. Il lui restait à construire les deux églises. Il fallait qu'il y ait deux églises pour la bonne raison que l'église royale devait accueillir le roi lors de ses visites officielles. Et il y avait l'église courante que l'on appelle l'église des soldats, connue aujourd'hui sous le nom de Saint-Louis des Invalides. C'était l'église où avaient lieu toutes les cérémonies concernant les soldats invalides, les enterrements, comme les décorations, les remises de décorations. Donc, Libéral Bruant commence à construire cette première église des soldats, mais il a beaucoup de mal et il ne parvient pas à rallier les deux églises entre elles. Tous ses projets déplaisent à Louvois et encore plus à Louis XIV, et en plus, il traîne. Ce qui fait qu'en 1676, Louvois le renvoie et fait appel à un jeune architecte de renom, Jules Hardouin-Mansart. Et Jules Hardouin-Mansart est prié donc de trouver rapidement une solution à ces églises. Et la solution, il va la trouver dans la grande coupole. Et sous cette grande coupole, il va créer, pour solution idéale, il va mettre un autel double. Et cet autel double, on ne le voit plus aujourd'hui parce qu'il y a une grande verrière qui le cache, mais c'est exactement le même autel qui est côté église royale que côté église des soldats. Donc Jules Hardouin-Mansart va construire cette église et il est surveillé par Louvois, mais surtout par Louis XIV. Et Louis XIV va se rendre souvent incognito aux Invalides. Il lui arrive parfois, il dit rien, il ne prévient pas même les Invalides, ce qui fait que le gouverneur des Invalides est souvent absent lorsque Louis XIV arrive. Et le Mercure Galant raconte une visite de Louis XIV en 1701.
Sa Majesté arriva à 5 heures devant le grand portail de la nouvelle église. Elle descendit de carrosse à plus de 100 pas de ce portail afin d'en voir la façade de loin comme de près. Elle passa entre deux doubles files d'invalides sous les armes avec leurs officiers et tambours battants et fit remarquer la grandeur et la richesse de l'architecture à toute la compagnie. Ensuite, l'on entra dans l'église, dont au premier coup d'œil, tout le monde parut étonné et demeura d'accord qu'il n'y avait rien en France d'aussi superbe en ce genre, de bâti avec tant de propreté et enrichi d'aussi belles sculptures. La coupe surprit infiniment et on admira la hauteur, les proportions et les bas-reliefs. L'on s'arrêta dans les chapelles qui ne sont pas décorées de sculptures. Le roi fit remarquer la beauté des marbres dont le tout est pavé. Le grand autel qui sert aussi à l'ancienne église, qui se voit de derrière, n'est encore qu'un modèle sur lequel on n'est pas tout à fait déterminé. Le roi dit tout haut que les colonnes se devraient être de marbre noir et qu'elles seraient entortillées de bronze doré et que les chapiteaux et les bases seraient aussi de la même matière. Il ajouta qu'il était aisé de juger de quelle magnificence serait cette église lorsque on l'aurait entièrement achevée et que la coupe et les chapelles seraient peintes.
Alors effectivement, Louis XIV n'aura jamais vu réellement son église totalement achevée. Il manquait, lorsqu'il est venu en 1706, lors de sa dernière visite, il manquait quelques décors. Il ne les aura pas vus. Mais ce dont il était le plus fier, c'était ce pavement auquel il tenait beaucoup, qui était fait de différents marbres de plusieurs couleurs. Il y avait blanc, rouge, gris, noir, et où se figurait dans un grand cercle son chiffre, les deux L entrelacés. Et malheureusement, ce grand pavement dont il était si fier a été sérieusement endommagé lorsque Visconti a creusé dans l'église royale pour créer cette grande fosse où il a installé le tombeau de Napoléon. Donc c'est un petit peu dommage car on perd toute la magnificence qu'avait voulu Louis XIV. Peut-être que les Invalides doivent beaucoup à Napoléon car c'est encore aujourd'hui, s'ils sont visités, les visiteurs viennent voir plutôt le tombeau de Napoléon et oublient que c'est Louis XIV qui a construit les Invalides. Alors donc, cette église royale des Invalides a reçu forcément plusieurs visites importantes. Louis XV y est venu une seule fois et surtout Louis XVI aussi s'est rendu accompagné de Marie-Antoinette. Il a visité, comme le veut la tradition, les infirmeries, il a rencontré les Invalides, il a même porté un toast avec eux et puis il s'est rendu dans l'église royale assister à une messe. Il a trouvé que l'église était très belle, que son ancêtre avait eu beaucoup de goût. Et puis, il s'en est retourné. Les Invalides étaient un petit peu tristes, car cette institution a pour originalité d'avoir pour maître à bord, si je puis dire, le roi. Elle relevait directement du roi, et d'ailleurs, aujourd'hui encore, elle relève directement du président de la République, car aujourd'hui encore, il y a des pensionnaires invalides aux Invalides, Et toutes les traditions, depuis 3 siècles, se sont perpétuées aux Invalides. Et c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu évoquer cette église royale que l'on connaît très peu ou que l'on connaît un petit peu défigurée depuis que Napoléon y a été installé en 1821. Merci.